Est-ce que ça marche? Voilà, c'est commencé. Donc, je suis content de vous revoir. Donc, je disais, c'est notre dernier cours. Et c'est pas parce que c'est le dernier cours, c'est pas parce que je parle pas des funérailles, pas parce que c'est le dernier cours, vous voyez.
Mais je trouve que c'est une coïncidence déplacée.
Voilà. J'espère de vous revoir avant mes funérailles.
Ah oui.
Mais vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez besoin que je projette ça, je vais essayer de le trouver. Comme ça vous fait comprendre une fois de plus ce que nous voulons faire. Attendez, hein, je vais le chercher. Tic-tic-tic. Tic-tic-tic. Non, c'est là. Non, c'est là. Voilà. Je vais juste partager l'écran et vous le verrez. Alors, voilà, vous vous rappelez de ce schéma,
Yes.
hein, qui désormais est
Ah oui.
votre repère, hein. Comme je vous disais, tout schéma est relatif, mais voilà, nous sommes là, vous voyez, à cette partie-là. Et c'est important de voir ce qui m'intéresse pour vous mettre un peu dans le bain de notre cours d'aujourd'hui, c'est de voir cet axe vertical, hein, du baptême et confirmation, passant par l'Eucharistie et allant aux funérailles. Je vous disais tout au début, nous sommes comme dans une sorte de chiasme poétique aujourd'hui, nous terminons d'où nous avons commencé. Nous commençons par vivre, par naître. Et puis par vivre le baptême, par être baptisé, généralement, hein, au moins, généralement, surtout notre génération, je mets un nous qui englobe d'autres personnes parmi vous, nous avons été baptisés petit ou petit, bébé. Eh bien, cela correspond à la rentrée dans la vie. Et il y a une sortie de la vie de ce monde, qui est célébrée par les funérailles chrétiennes. Eh bien, je vous disais que tout en n'étant pas un sacrement, les funérailles ne sont pas des funérailles, c'est une célébration chrétienne qu'on pourrait plutôt comparer à un sacramental. Vous rappelez la différence entre sacrement et sacramental? Le sacrement, ce sont ces signes qui apportent le salut institué, voulu par le Christ, que l'Église a reçu du Christ, de gestes du Christ lui-même. Par contre, le sacramental ou les sacramentaux sont plutôt des prières que l'Église fait pour ses fidèles, pour les baptisés. Et donc, ça peut être des bénédictions, justement, dont on parle beaucoup ces jours-ci, ça peut être voilà, notamment les bénédictions. Mais ça peut être aussi, par exemple, le lavement des pieds est un sacramental, hein, celui qu'on vivra le jeudi saint, moi, ce qui, quand on pourra le faire, et si nous le ferons parce que nous sommes confinés nous-mêmes sur une île, mais donc, voilà, nous pourrons le faire. Et les funérailles font partie, peuvent être retenues comme effectivement un sacramental.
Ah, d'accord.
Vous comprenez pourquoi, et ça vous montre naturellement, un sacrement est toujours destiné à quelqu'un, n'est-ce pas? Mais de quelqu'un qui y participe librement, qui rentre en dialogue, qui répond oui ou qui répond je crois ou qui répond voilà. Il peut répondre au geste qui est posé pour lui de ce geste de salut. Naturellement, les funérailles, l'objet, le sujet des funérailles est le défunt. Il ne peut plus répondre. Donc, vous voyez pourquoi il n'est pas considéré comme un sacrement en tant que tel. Mais pourquoi j'ai voulu le mettre? J'ai voulu vous parler des funérailles, tout d'abord parce que j'enlève, hein, ce schéma, vous l'avez vu désormais. Pourquoi parler des funérailles? Parce que, comme je vous disais, tout d'abord, ce sont les étudiants, vos collègues avant vous qui m'avaient demandé de parler de funérailles ou parce qu'ils étaient concernés dans l'accompagnement des familles en deuil ou généralement pour cette raison-là. Et puis en y réfléchissant, je me suis dit que ça valait la peine d'en parler parce que justement, les funérailles est un lieu d'observation très intéressante pour voir, pour constater où va la ministérialité dans l'Église. Il y a un constat qu'il faut faire, hein. De plus en plus, les laïcs, et donc qui ne sont pas nécessairement des ministres ordonnés, les laïcs sont appelés dans l'Église à officier les funérailles, et donc à avoir une place importante dans la célébration des funérailles chrétiennes. Et vous voyez que le fait que deux laïcs puissent le faire, cela ouvre des perspectives très larges ou beaucoup plus larges de ce qu'on pensait, pas seulement de la manière dont les laïcs peuvent participer aux célébrations, aux rituels de l'Église, mais aussi à la prise en compte peut-être de la ministérialité des laïcs. C'est que les laïcs peuvent participer à une ministérialité tout à fait de manière importante. Parce que je vous fais remarquer, bon, on pourrait dire, bien sûr, les laïcs y participent parce qu'il y a pénurie de prêtres. Et donc, puisqu'il y a pénurie de prêtres, on envoie les laïcs sur les tranchées. C'est pas ça. Hein, c'est pas ça. Je pense que, bien sûr, c'est aussi ça. C'est-à-dire que les laïcs permettent aux ministres de s'occuper d'autres choses, de vivre d'autres choses. Mais je dirais de manière plus positive, le fait de confier aux laïcs la célébration des funérailles, au moins certaines parties, sinon toutes, montre que les laïcs participent par leur baptême à ce ministère
Rendez-vous samedi pour l'abbaye quand on veut.
obtenu par le baptême. Donc, je vais essayer de...
Après, je m'occupe de Marie.
Attention au micro, voilà. On va donc parler de la célébration des obsèques, mais avant de parler de la célébration des obsèques, juste un retour en arrière, peut-être en arrière. Est-ce qu'il y aurait, voilà, nous commençons toujours comme ça, est-ce qu'il y aurait une question ou l'autre qui est surgie à partir du dernier cours? Est-ce que vous voudriez qu'on prolonge? Il y a quelque chose qui vous a démangé cette semaine par rapport à ce que nous avons fait la dernière fois et vous voudriez demander quelque chose ou des éclaircissements ou partager quelques perceptions.
Moi, j'ai une question sur ce que vous venez de dire.
Oui, Étienne.
Si c'est possible, vous avez dit un
Oui,
sacrement toujours destiné à quelqu'un qui peut répondre au geste de salut. Vous avez commencé là le cours d'aujourd'hui comme ça. Et donc, vous avez dit, bah, les funérailles, comme on ne peut pas répondre, ça ne peut pas être un sacrement. Et je me posais la question pour le baptême des enfants.
Tout à fait. C'est une très belle question, Étienne. C'est un bel exemple, hein. Alors, justement, alors là, l'affirmation que les défunts ne peuvent pas répondre est l'un des aspects du sacrement. Et il est vrai qu'on pourrait comparer, vous avez, je peux dire, en souriant que vous pourriez passer aisément l'examen des sacrements de ce cours. Compte tenu de la question, parce que vous la comparez effectivement au baptême des petits-enfants. Alors, je reviens en arrière au baptême des petits-enfants. C'est Augustin qui avait eu cette trouvaille, parce que la question se posait déjà au moment d'Augustin. Qu'est-ce qu'on fait des enfants qui ne peuvent pas répondre? Et Augustin disait ceci, et reste comme une réponse dans la théologie catholique. Il est vrai, les enfants ne peuvent pas répondre, mais les enfants et même les adultes, dit Augustin, tous les deux sont baptisés dans la foi de l'Église. Ils font ce que l'Église croit. Ils vivent ce que l'Église croit. Quand ils disent « je crois », ou quand ils le disent sur le « je crois » de l'Église. Et donc, c'est en ce sens-là que Augustin justifiait, si je peux dire, la possibilité de donner le baptême aux enfants. Alors, première question qui répond en partie à ce que vous disiez. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, le baptême est la porte d'accès au salut. Hein. Le baptême est donné, on dit, pour la rémission des péchés. Nous l'avons vu dès le début de l'Église. Et il efface tous les péchés. Et donc, du coup, les funérailles, quelque part, prévoient, ou disons, donnent comme acquis que le fidèle qui est à l'Église défunt est là à cause de son baptême. Et donc, son salut est déjà, entre guillemets, acquis. Dans les funérailles, l'Église ne fait que pour prier pour, d'une part, le défunt, mais aussi pour la famille ou pour ceux qui sont les proches du défunt. Hein. Il ne faut pas oublier la prière aussi pour ceux qui sont en deuil, hein, qui est très important. Donc, les deux aspects. Donc, vous voyez que la démarche n'est pas exactement la même. Hein. Il n'est pas question d'un salut qui n'est pas acquis pour le défunt. Le salut est acquis à cause de son baptême. Mais par contre, puisqu'il arrive au terme de sa vie, l'Église prie pour lui, pour qu'il puisse vivre dans la plénitude de la grâce qu'il a reçue au baptême. Mais il n'ajoute rien à la vie sacramentelle qu'il a déjà vécue. Je ne sais pas si j'ai répondu, Étienne.
Oui.
Mais la question était très intéressante et ça permet de réfléchir et de faire un exercice.
Est-ce qu'on peut dire aussi que pour le baptême, les parents endossent la responsabilité?
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on dit que généralement, les parents, dans le cas du rituel du baptême d'aujourd'hui, ce sont les parents qui répondent au nom de l'enfant. Quelque part, ils se font garants de la foi de l'enfant, mais d'une foi qui doit grandir. Hein. Et donc, effectivement, cela ne rend pas exempt l'enfant d'une liberté qu'il devra exercer quand il grandira. Voyez. Et donc, du coup, pour le temps où l'enfant ne peut pas parler, il ne peut pas s'exprimer, effectivement, ce sont les parents qui portent avec l'Église, au nom de l'Église, la foi qu'ils professent. Hein, voilà.
Et le Saint-Esprit.
Bon, le Saint-Esprit, effectivement, l'action de l'Esprit est toujours importante. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions?
C'est pas une question, c'est juste une remarque qui me vient en tête. J'ai l'impression que les funérailles est une des célébrations qui amène le plus de non-croyants à l'Église.
Oui.
Par respect pour les familles les familles et le mort. Même s'ils ne sont pas croyants, enfin, j'ai eu l'expérience, alors là c'était un enfant en plus, donc forcément ça touche beaucoup. Il y a eu évidemment les funérailles où toute la famille, les proches sont venus, mais il se trouve que c'était un enfant du caté. On a fait rapidement une petite célébration. On s'attendait à très peu de monde et surtout les enfants au caté, les copains. Et énormément de gens sont venus. On s'est retrouvés avec une église pleine. Et je sais qu'il y avait des musulmans, des non-croyants, des... Voilà, bon, petite anecdote.
Oui. Merci Judith aussi de dire cela parce que c'était une troisième motivation pour laquelle j'ai mis les funérailles en termes de parcours, parce qu'effectivement, en plus ce que j'ai dit, les funérailles se révèlent effectivement aujourd'hui, plus qu'autrefois peut-être, comme un lieu d'évangélisation, d'annonce d'évangile, de l'évangile. Parce que comme vous dites, et je ne fais que répéter ce que vous dites, l'assemblée qui participe à des funérailles ne vient pas nécessairement pour l'Église. Vous voyez, ils viennent par amitié, par compassion, pour soutenir la famille ou ceux qui sont en deuil. Mais voilà, puisque c'est une célébration chrétienne, du coup, cette célébration peut devenir un lieu formidable d'annonce de l'Évangile. Voyez, pas seulement du fait qu'on croit à la résurrection et que la vie ne termine pas là, mais qu'elle ne fait que commencer, hein, mais par le fait qu'effectivement, on peut, la célébration elle-même, comme on le verra tout de suite, permet d'annoncer la foi au Christ. Voilà. Donc effectivement, et ça de deux côtés, hein, je veux dire, et de la part de ceux qui participent à la célébration, et de la part du défunt, qui assez souvent n'a pas été trop pratiquant, mais ça peut arriver que celui qui meurt ait demandé avant de mourir, s'il vous plaît, quand je mourrai, amène-moi à l'église de mon baptême, ou bien amène-moi, vous voyez, donc du coup, il y a comme une sorte de mémoire de la foi reçue, même si on n'a pas pratiqué pendant la vie, voyez. Et donc il y a comme une sorte de, oui, de mémoire qui se réactive de la foi reçue. Et donc voilà, c'est quoi, c'est important ce que vous dites, Judith. Inès.
Oui, moi j'ai une question complètement différente. Dans le dernier texte que nous avons étudié en groupe, c'était un texte de Moinct, il y avait cette phrase qui nous a un peu posé problème. Ceci, c'était page 303, « Ceci n'est pas une invitation à pratiquer l'hospitalité sacramentelle à l'égard des non-chrétiens. » On s'est demandé ce qu'on appelait l'hospitalité sacramentelle.
Ah oui. Alors, généralement, hospitalité sacramentelle, l'expression hospitalité sacramentelle, c'est l'hospitalité eucharistique, et permettre de communier à la messe. Vous voyez, voilà. Alors, par exemple, nous en avons parlé au moins en partie, je crois qu'à partir du texte des Dombes, là, qu'on avait donné pour l'Eucharistie, une des scandales, je dirais, dans l'unité des chrétiens, c'est que les chrétiens ne peuvent pas aujourd'hui, ils peuvent, par exemple, reconnaître le baptême les uns des autres, mais ne peuvent pas communier ensemble. Et donc, effectivement, on parle là d'hospitalité eucharistique. Donc, on ne peut pas avoir d'hospitalité, on ne peut pas accueillir quelqu'un d'une autre confession, le rendre hôte de notre propre célébration ou vice-versa. Donc c'est en ce sens-là qu'on parle d'hospitalité. Mais je pense que, par contre, comme disait Judith, dans des funérailles, ce ne sont pas des sacrements, mais quand même, il peut y avoir des gens d'autres confessions, ou pour le mariage, ou pour le baptême, vous voyez. Là, l'hospitalité est possible, mais naturellement, ils viennent en tant qu'hôtes à une célébration pour laquelle ils ne doivent pas eux-mêmes s'engager, si je peux dire. Hein? Oui. Alors que le communier engage. Oui. Donc, c'est en ce sens-là, je pense, qu'il le dit.
Non, je ne comprends pas, pardon. Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris ce que vous disiez juste là.
Qu'est-ce que vous...
Dire communier, ça engage.
Oui,
Vous dites, ça veut dire que les gens d'une autre confession venant dans une célébration chrétienne sont autorisés, s'ils respectent, à communier.
Non, je disais que si, l'hospitalité eucharistique, l'hospitalité dont parlait Inès, citant moi, concerne l'Eucharistie. Et donc, je disais qu'effectivement, encore aujourd'hui, les confessions chrétiennes ne peuvent pas vivre cette hospitalité. Un protestant ne peut pas communier dans une messe catholique, un catholique ne peut pas communier dans une messe eucharistique orthodoxe, voyez. Donc, peut-être que les plus ouverts sont les protestants. Les protestants sont ouverts. Nous, les catholiques, on peut permettre à des protestants ou aux orthodoxes de communier, mais avec la permission de l'évêque, de l'ordinaire du lieu. Ça, donc, on est dans une voie de milieu. Les orthodoxes, généralement, ne font jamais communier. Ce sont d'autres confessions. Donc, cela, je disais, c'est une sorte de scandale si on pense à la prière de Jésus pour l'unité. Mais, je disais...
Pardon. Est-ce que maronites et catholiques peuvent communier ensemble?
Oui, parce que les maronites, c'est une des orientaux catholiques, en communion avec Romains.
Oui, merci.
Donc, même d'autres orientaux, même d'autres catholiques de rite oriental peuvent, pas que les maronites, aussi des coptes catholiques ou des arméniens catholiques, voyez. Je termine juste pour Evelyne. Et donc, si cela est vrai pour l'Eucharistie, cela, par contre, selon l'exemple que donnait Judith, est possible pour d'autres sacrements. On peut y avoir parfois dans une assemblée d'un baptême d'un petit enfant, un protestant ou un orthodoxe qui vient parce qu'un ami de la famille, mais vous voyez, mais s'engage moins, il vient en tant que personne. Mais il ne doit pas recevoir le sacrement, il y participe en tant que chrétien, voyez.
Et... Ça, je suis stupéfaite.
De quoi?
Moi, de toute bonne foi, je suis allée dans des assemblées protestantes et j'ai communié. S'il y avait une présence réelle,
La vision protestante.
C'est pas le sujet.
Effectivement, la vision protestante est très différente de la nôtre. Pour les protestants, rien n'empêche de communier. Pour eux, la question de la médiation et donc de la communion ecclésiale est moins importante que chez les catholiques et chez les orthodoxes. Ils vont même très loin. Parfois, certaines paroisses permettent à des non-baptisés de communier. Mais voilà, c'est leur type d'approche. Il y avait quelqu'un qui avait levé. Il y avait Anaïs, je crois, qui avait levé la main.
Vous avez répondu à ma question parce que, en répondant à Evelyne, je voulais savoir tout simplement que des non catholiques ni chrétiens, ils peuvent assister à une messe de communion ou de baptême sans communier eux-mêmes. Oui. Et donc, vous avez répondu en répondant à Evelyne, j'ai eu ma réponse. Merci beaucoup, frère.
Ça marche? Très bien. On commence alors ce cours sur les funérailles. Je vais essayer de partager l'écran. Voilà, je vous donc, vous avez dû recevoir le plan. Vous voyez à nouveau notre, vous verrez, c'est un beau chemin que nous allons faire ensemble parce que quelque part, ça va résumer toute la vision des sacrements. Pourquoi? Je peux déjà le dire, le rituel des funérailles, selon l'Église catholique, mais on pourrait aussi le comparer à celui de l'Église orthodoxe, montre vraiment, se manifeste comme une liturgie pascale. Donc, du coup, quelque part, le défunt vit un passage, une Pâque. Et donc, je voudrais commencer par le développement des rites funéraires. Comme on fait habituellement, on commence d'origine jusqu'au Concile Vatican II et donc à notre rituel, et puis on va rentrer brièvement dans le rituel. Donc le développement les rites funéraires. On peut dire que les rituels chrétiens n'ont pas été créés de toutes pièces. Ils s'enracinent, un peu comme pour le mariage, nous en avions parlé, hein. Ils s'enracinent dans les coutumes existantes tout en les transformant. C'est un peu le génie, entre guillemets, du christianisme. Naturellement, il les transforme dans la mesure où, pour le christianisme, la mort a été vaincue par le Christ. Nous allons le célébrer cette semaine avec Pâques. Donc, effectivement, l'événement de la mort, de la résurrection du Christ, est au cœur de la foi chrétienne. Et donc, en tant que tel, cet événement de la mort et de la résurrection du Christ n'implique pas directement un nouveau rituel de la mort. Nous savons, et ça c'est très important, parce que du coup c'est un peu, on pourrait dire, providentiel que nous parlions de ça cette semaine. Rappelez-vous que le Christ lui-même, après avoir subi le supplice de la croix, a été lui-même enseveli avec les coutumes de son époque. Et de même, la manière dont les funérailles d'un des premiers martyrs chrétiens, qui s'appelait Étienne, martyr, donc récit qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, on dit bien dans ce passage des Actes que Étienne a vécu, pour lui, on a célébré des obsèques qu'on observait habituellement dans le monde juif. Le texte des Actes dit ceci: des hommes pieux l'ensevelirent et firent sur lui une grande lamentation. Ensevelir, lamentation. Donc on voit déjà l'ébauche d'une célébration des funérailles, d'une ritualité des funérailles. Et ce rituel des funérailles en Palestine, à cette époque, est assez simple. Le corps est enseveli le jour même du décès ou le lendemain, inhumé à même la terre, ou bien, pour les familles aisées, le corps est enveloppé dans un linceul et il est déposé dans une chambre funéraire creusée dans le roc. Donc, les rites de deuil ressemblent au rite de pénitence. Quand on parle de grande lamentation pour Étienne, qu'est-ce qu'on pense? Bien, généralement, à cette époque, on déchire les vêtements, on se répand de cendres, ou bien on manifeste une sorte de participation à la mort par ces rites eux-mêmes. Voyez, c'est comme si on voulait s'approcher le plus possible du défunt. Les lamentations sont un rite essentiel à cette époque et il le reste encore aujourd'hui dans certains pays de l'Orient. Je pense aussi, il ne faut pas aller chercher trop loin, dans le sud de l'Italie par exemple, on peut encore avoir des formes de lamentation autour du défunt. Alors, ça peut être des cris de douleur, l'appel du défunt, pour le rappeler parmi les vivants, des complaintes. Hein. Tout cela est ritualisé. Et parfois, à certaines époques, on demandait à des professionnels de faire cela. Alors, le monde gréco-romain connaissait aussi de telles lamentations. Et donc, on peut dire d'une manière générale que les premières générations chrétiennes suivent sans problème les coutumes locales, aussi bien dans le monde grec que dans le monde romain, d'autant plus que les funérailles sont des cérémonies familiales plus que religieuses. Il y a un côté très domestique pour les funérailles. Si nous prenons en compte la période patristique, 3e et 16e siècle, j'essaie de le résumer rapidement, on peut dire que à cette époque, les chrétiens n'accordent pas aux funérailles la même importance décisive que les païens. En effet, la résurrection des morts les invite à proclamer leur joie, qui est plus forte que leur peine, à cause de la résurrection du Christ, vous voyez. Et donc, l'espérance de la résurrection relativise aussi l'obligation de funérailles rituelles, comme en témoignent en particulier les martyrs. Généralement, on a des récits de martyrs de ces siècles-là, entre le IIIe et notamment au IIIe siècle. Les martyrs souvent demandent de ne pas recueillir leur propre corps, de ne pas faire des funérailles. En effet, ils sont plutôt préoccupés. Par exemple, je pense à un personnage comme Ignace d'Antioche, un des tout premiers martyrs chrétiens. Ignace demande à la communauté de Rome que ce soit les bêtes qui vont le déchiqueter, qui deviennent son propre tombeau. Donc, il y a une sorte de liberté, d'éloignement par rapport à ce qui se passera du corps par la suite. Il n'y a pas vraiment cette perception-là. Et quand on regarde du côté du rituel des funérailles, on peut remarquer que généralement, à cette époque, on revêtait le défunt d'un vêtement blanc qui rappelait son propre baptême, le vêtement blanc qui rappelait son propre baptême, les lamentations qui étaient faites dans les traditions gréco-romaines à monde chrétien vont être remplacées par le chant des psaumes. C'est une transformation profonde de l'approche de la mort, et parce que généralement, ces psaumes expriment non plus la tristesse, mais la joie d'un événement heureux dans la foi. Et puis, la coutume romaine de placer une pièce de monnaie dans la bouche du défunt est supprimée en christianisme. Et à la place, je dirais, de la place de la pièce de monnaie, les chrétiens vont remplacer, je peux dire, vont substituer cette pièce de monnaie par le viatique, c'est-à-dire le pain de la vie, l'Eucharistie, qui fait déjà communier à la vie éternelle. Et donc l'Eucharistie va être reçue par celui qui mourra comme une sorte de gage de résurrection. En plus, en christianisme, notre aspect de la ritualité chrétienne, en christianisme, on va peu à peu offrir l'Eucharistie pour les défunts. Et cela est une pratique qui est attestée dès le IIe siècle en christianisme. Généralement, même les chrétiens aiment célébrer ces eucharisties sur le tombeau même du défunt. Le tombeau devient un lieu de célébration de l'eucharistie. En plus, ce sera l'encensement du corps du défunt pour souligner l'aspect triomphal des funérailles chrétiennes. Et puis, à Rome et dans les grandes cités occidentales, la pratique de l'incinération était courante pour des raisons d'hygiène, et à cause du prix du terrain. Eh bien, si cela est vrai pour la Rome païenne, les chrétiens vont plutôt préférer l'inhumation qui est jugée plus conforme avec la foi en la résurrection des corps. De là, ça, je vous renvoie entre autres à l'importance, nous en avons des témoignages archéologiques, l'importance des catacombes. les chrétiens, quelque part, aiment plutôt être inhumés. Plutôt être inhumés. Si nous passons par contre au rituel du Moyen-Âge, là, donc, vous voyez que les chrétiens investissent ces rites, je dirais, civils, en donnant un ton tout à fait important, comme j'essaie de vous le montrer, ne fût-ce pas la ritualité. Si on regarde par contre le rituel du Moyen-Âge, entre le 7e et le 15e siècle, qu'est-ce qu'on peut constater? Un document daté du 7e siècle, quelque part, que je vais vous décrire, codifie toutes les pratiques antérieures, celles que je viens de vous décrire. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ce rituel décrit par ces documents du 7e siècle? Je ne fais que l'indiquer de manière rapide. D'abord, il va y avoir une préparation à l'approche de la mort avec la communion à l'Eucharistie, une lecture du récit de la Passion dans les évangiles jusqu'à ce que la personne meure. Eucharistie, lecture de la Passion. Alors, j'ouvre une parenthèse, et ça vous donne déjà une clé pour comprendre qu'est-ce que sont les funérailles chrétiennes. Pourquoi le récit de la Passion? Parce que celui qui meurt, meurt comme le Christ est mort. Ou, c'est vrai, le Christ a accepté la mort pour partager notre condition humaine jusqu'au bout. Et donc, le défunt qui entend le récit de la Passion devient un autre Christ, un mourant. Puis, au moment de mourir, on chante le psaume 113, le psaume 113, qui est un chant tout à fait pascal, là où le mot-clé, l'idée de sortir, de passer, le psaume commence par ce verset, « Quand Israël sortit d'Égypte », alors on pense au défunt comme quelqu'un qui sort de la vie pour une vie meilleure. Et puis, il va y avoir des rites de toilette funéraire, suite auxquels le corps est placé sur un brancard, le visage découvert. Le visage découvert. Une procession se déroule de la maison du défunt vers l'église, et un office à l'église est célébré, composé de psaumes, d'antiennes, de lectures, notamment du livre de Job. Mais on n'a pas à cette époque la pratique de la messe. C'est un office, je dirais, de lecture et de psalmodie. Et puis, une deuxième procession va de l'église au lieu de sépulture, à nouveau accompagné de psaumes, d'antiennes, et le rite se termine avec le chant d'un autre psaume, le psaume 117, qui est un psaume pascal, qui, je ne fais que citer un verset de ce psaume, qui dit « Ouvrez-moi les portes saintes, une fois entré, je louerai le Seigneur ». On met sur la bouche du défunt ce psaume, l'Église chante ce psaume en pensant au défunt comme celui qui entre dans la joie du Seigneur. Je dirais que l'aspect le plus significatif de ce rituel du 7e siècle, je vous fais remarquer, hein, parce que nous verrons qu'après il y aura des changements, comme nous l'avons constaté aussi pour d'autres sacrements, l'aspect plus significatif de ce rituel est son caractère pascal. Les psaumes le disent. C'est vraiment la Pâque du défunt, avec le psaume 113, le psaume 117 qu'on vient de nommer. En plus, un autre aspect marquant de ce rituel est celui que on accompagne le défunt ou celui qui est en train de mourir de manière continue, depuis l'agonie jusqu'à l'inhumation. Et donc, il y a vraiment une sorte de témoignage de la part de l'Église et de ceux qui sont proches du défunt et donc de l'Église. Il y a le témoignage d'une continuité qui présente la mort comme un passage qui renforce le caractère pascal. Et donc, l'acte de marche entre la maison, l'église, le lieu de l'illumination, et bien ce chemin vers quelque chose. En plus, on peut remarquer, notamment dans les textes rituels de cette époque, une tonalité lumineuse, apaisée. C'est comme si la communauté demandait la miséricorde de Dieu pour un homme faible, pécheur. Mais on n'a pas l'impression, dans ces textes, que la communauté ou que l'Église soit préoccupée du sort du défunt, étant sûre que la miséricorde de Dieu l'accueille. Et donc, il n'y a aucune angoisse quant à la destinée de celui qui est mort. Là, nous sommes encore au 7e siècle, mais à partir du 8e siècle, on va déjà constater des changements à ce rituel. En effet, apparaissent à cette époque de nouveaux livres liturgiques, et dans ces livres liturgiques, on peut constater, concernant le rituel des funérailles et des obsèques, on peut constater un climat plus sombre et plus pessimiste. Notamment, on peut constater qu'à l'atmosphère confiante du rituel qu'on a vu tout à l'heure, s'ajoute plutôt une inquiétude pour les défunts. Et donc, à partir de cette époque et dans le rituel de cette époque, le passage dans l'au-delà apparaît comme un voyage périlleux, comme un voyage périlleux dans lequel on pense que ce voyage est plein d'embûches où le diable peut être présent pour prendre l'âme du défunt, voilà. Et donc, ces rituels commencent généralement après la mort. Ça, c'est une nouveauté absolue. Oui, donc, il n'y a pas un accompagnement avant la mort, avant le dernier soupir pour nous entendre. Mais ces rituels commencent après la mort de la personne. Et ainsi rompent quelque part avec les usages que nous avons vus tout à l'heure au 7e siècle. Et ils s'intéressent plutôt et surtout du voyage de l'âme du défunt et n'intègrent plus de manière aussi forte l'événement de la mort corporelle. Donc ce qui est souligné, ce sont bien plus les risques de la condition humaine, la peur du jugement, les peines de l'au-delà. Et donc, c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on voit dans ce rituel une dimension plus marquée d'intercession. En conséquence, effectivement, la liturgie des funérailles, une dimension nouvelle d'intercession. L'Église, désormais, offre ses prières pour les défunts, à la fois suppliantes, confiantes. Alors, la miséricorde de Dieu reste source d'espérance, mais les oraisons alternent dans ce rituel, parfois une confiance paisible, mais parfois des demandes pressantes. Et donc, on a cette dimension d'intercession. On voit paraître dans cette dimension d'intercession les formulaires de messe pour les défunts. On célèbre des messes pour les défunts, qui est désormais une pratique qui va se développer de plus en plus. Nous avons vu, c'est important que vous le remarquiez, que ce n'était pas quelque chose qui était originaire, la célébration de l'Eucharistie. Quand on passe à un autre, je dirais plutôt à la... une époque intermédiaire, un peu avant le XVe siècle, il y a un document, un autre document plutôt daté du Xe siècle, qui va effectivement va donner un des premiers rituels unifiés, structurés des funérailles. Eh bien, dans ce rituel du Xe siècle, on constate que se développe à cette époque un sentiment totalement présent de peur du jugement, de peur du jugement de l'âme du défunt. Et donc, à l'attente de la parousie, qui était un peu l'esprit initial des funérailles chrétiennes, rencontrer le Seigneur, vous vous rappelez ce qu'on disait tout au début, bien à cette attente à la parousie va se substituer la crainte du jugement, la crainte du jugement. Et le thème du jugement dernier prend une importance considérable dans la liturgie, mais aussi, vous le remarquerez quand vous visiterez des églises, dans l'iconographie chrétienne, dans l'iconographie des églises. Généralement, on peut trouver notamment dans les églises romanes, d'architecture romane, on trouve généralement peint le jugement dernier à la sortie de l'église. Quand on sort de l'église, on représentait en haut de la porte le jugement dernier, comme pour appeler aux fidèles, regarde, qu'est-ce qui va se passer. Donc, vous voyez, une sorte de peur, d'angoisse vis-à-vis du jugement. Et donc, cela va naturellement rentrer aussi dans la liturgie. Et certaines antiennes des funérailles vont prendre inspiration de cette idée-là, dans laquelle, effectivement, on va souligner cette crainte de Dieu, plutôt négative, je dirais. D'où, oui, Judith, vous le dites.
Oui, comment on explique ce changement de vision de la mort ?
Alors, je pense qu'il y a des raisons à la fois culturelles. La culture ambiante, je pense aussi les grandes épidémies de l'époque, et tout ça conduit à quelque chose, donc provoque une imagination autre. Et puis je pense qu'au niveau théologique, on s'éloigne d'une vision, je dirais plutôt pascale, de la foi chrétienne. On pense plutôt, comment dire ça, à une vie faite de labeur, de souffrance, oui, on pense plutôt à l'immédiat de la vie, qui était dur à l'époque, il faut le penser, nous sommes là au Xe siècle, vous voyez, c'est pas facile, et donc, cela, je pense, et puis, je pense aussi le fait que les sacrements, là, du coup, ça nous permet de résumer le cours, la vie sacramentelle évolue aussi, c'est-à-dire qu'on a comme l'impression que d'une célébration qui est plutôt ecclésiale au sens large, augustinien du terme, tout va être réservé au clerc. Il y a plutôt l'idée de quelqu'un qui dirige l'Église, de quelqu'un qui a pouvoir sur les sacrements et les fidèles qui ne l'ont pas. Donc il y a quelque part une sorte d'instance d'éloignement des fidèles de la célébration et donc d'une vision plutôt d'être jugé, d'être loin. Voilà. Il y a un ensemble de choses qui provoquent ça. Voilà.
La façon dont vous le formulez peut nous faire poser des questions, même si là, on parle d'une époque loin de la nôtre. Oui. le fait d'éloigner les laïcs, aujourd'hui, il faut se poser aussi la question de bien les intégrer, si ça nous éloigne des sacrements et des rituels.
Je suis content que vous, disiez ça, Judith, parce que ben, peut-être c'est un fruit du cours. Hein. Je vous ai dit tout le temps quel est le sens du parcours historique, c'est de vous prendre conscience qu'on peut tout le temps tomber dans ces travers. Et donc, si on n'est pas vigilant, on peut tout le temps tomber dans des déviations ou des perceptions qui ne sont pas les bonnes. Et je pense que, sans vouloir être partisan, je ne le dis pas avec une idée d'être partisan, mais il est clair que le Concile Vatican II nous a plutôt invités à retrouver l'esprit du premier millénaire tel que nous voyons, qui est beaucoup plus équilibré, qui non celui qui s'approche vers le 10e, 12e siècle, qui avait une vision très cléricale de la vie sacramentelle et liturgique. Mais, à nouveau, vous avez raison de dire, cela peut être un danger tout le temps. C'est des moments où le prêtre fait tout, du coup, on ne verra pas l'action de l'Église tout entière. D'où l'importance de multiplier les ministères, de les élargir aussi aux laïcs. Oui, et donc, face à cette peur du jugement, naturellement, voilà l'émergence de la messe célébrée par l'Église, la multiplication des messes pour les défunts. Je recoupe cela avec ce que nous disions de la réconciliation, de la confession. Les messes qui sont multipliées dans les Églises, c'est à cette époque, je vais vous faire remarquer une fois de plus, qu'on va construire des autels latéraux dans les cathédrales et les églises. On multiplie les autels pour qu'il y ait le plus possible qu'on puisse, de manière plus importante, célébrer des messes, de manière multipliée. Naturellement, je vous ferai remarquer, moyennant de l'argent. Tout cela prépare les critiques protestantes, je vous ferai remarquer. Je pense que, comme disait un de mes collègues, je ne sais pas si vous avez déjà raconté cette anecdote, un collègue protestant, Raphaël Picon, qui est décédé jeune, à 49 ans, mort d'un cancer, et quand il faisait les cours, il se tournait vers moi, catholique, et disait, mais dis-le, Isaïa, nous les protestants, nous vous avons rendu meilleurs. Et je crois qu'il a un peu raison. Hein. Les critiques protestantes n'étaient pas que des critiques virulentes. Elle disait qu'il y avait une part de vrai dans ce qu'elle disait. Voilà. Et donc, voilà, c'est à cette époque-là aussi, et je terminerai l'époque du 10e siècle, qu'on va voir une cléricalisation des funérailles. Une cléricalisation des funérailles. En effet, on va désormais y avoir une distinction entre clercs et laïcs. Ce que font les clercs ne peut pas être fait par des laïcs. Hein? La gestion du sacré revient aux clercs. Les actes religieux doivent être accomplis ou présidés par un prêtre. Et puis donc, le fait qu'on généralise la messe, cela marque le fait qu'inévitablement, ce n'est que le prêtre qui peut faire cela. Et un mot peut être aussi dit que sur le lieu de sépulture. En effet, les cimetières, en dehors de la cité, étaient un usage dans l'Antiquité, font place désormais à partir du Xe siècle de nouveaux lieux de sépulture. D'une part, les villes s'étendent au-delà de leurs murs, de l'enceinte de la ville, et les faubourgs tendent à recouvrir les terrains d'inhumation. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on voit les cimetières autour de les églises. On le voit encore dans certains villages de nos campagnes. On construit une sorte d'espace sacré autour de l'église où on va avoir l'inhumation des défunts. Quand on regarde, et puis on passera au rituel du concile et nous verrons le rituel vraiment innové. Quand on passe au rituel tridentin, donc celui issu du concile de Trente, hein, tridentin n'est pas un arc de biscuit. Hein, c'est ce qui vient après Trente, issu du concile de Trente. Voilà. Et donc c'est en 1614 qu'on promulgue un rituel dans l'Église catholique. Et ce rituel, effectivement, traite de l'administration des sacrements et des autres fonctions ecclésiastiques. On peut constater que ce rituel va avoir un souci pastoral renforcé. Ce rituel est marqué par un souci pastoral. En effet, il donne une place importante aux funérailles et attire l'attention sur la responsabilité du curé de la paroisse à l'égard des mourants. Et donc, déjà à cette époque, hein, je le fais remarquer, si le prêtre ne peut pas être partout, il peut se faire remplacer dans ses visites par un autre prêtre ou par un laïc. Déjà à cette époque, c'est important de le souligner. Le rituel précise aussi que la célébration des funérailles, hormis la messe, peut être présidée par un diacre. Il ne s'agit donc pas d'une fonction typiquement sacerdotale. Cependant, à travers ce rituel, l'accompagnement des mourants, la célébration des funérailles, l'inhumation au cimetière, apparaissent comme les principaux ministères des curés. La cure d'âme, comme on dit, vient de là. C'est vraiment le souci des curés doit être le fait d'accompagner les mourants et de célébrer les funérailles. Je recoupe avec ce que nous disions la fois dernière de l'onction des malades. C'est à ce moment-là aussi qu'on considère que l'onction, que l'extrême onction peut être donnée seulement quand on est vraiment en danger de mort, quand on est sûr que la personne va mourir. D'où les deux qui sont très liés à cette époque. Le rituel met en particulier l'accent sur la préparation à la mort. Il revient au prêtre de donner l'absolution, l'extrême onction, de faire la recommandation de l'âme avec les litanies des saints, l'oraison, les lectures de la passion, les psaumes, voilà. Et puis, dans le déroulement des funérailles, on peut constater que après la mort commence donc le rituel des funérailles et il consiste là déjà à une procession de la maison à l'église, un ensemble de rites accomplis à l'église, notamment l'office des défunts, et puis surtout la messe, ou ce qu'on appelle l'absoute, la messe ou l'absoute, et enfin la procession jusqu'à la tombe, dont le rite est assez abrégé. C'est ce rituel-là que je viens de vous décrire rapidement, donc très lié, je dirais, à l'extrême onction, vous l'avez, j'espère que je l'ai fait percevoir. Ce rituel-là va durer, si je peux dire, va être en usage jusqu'au Concile Vatican II. Et c'est avec le Concile Vatican II que c'est ce concile qui va expliciter pourquoi c'est important de rénover le rite des funérailles. C'est dans la Constitution sur la liturgie numéro 81, comme je vous ai marqué ici sur le plan, là où ce numéro dit ceci, je le cite, « Des funérailles devra exprimer de façon plus manifeste le caractère pascal de la mort chrétienne et devra répondre mieux aux situations et aux traditions de chaque région. Mais c'est très important. Je soulignerai deux choses de ce que je viens de lire. L'une, le fait d'exprimer le mystère pascal. On retrouve ce qu'on avait perdu en route de l'évolution du rite des funérailles. Donc on demande qu'on souligne l'animation pascale de la mort chrétienne. Et puis, vous avez bien entendu, ce rituel peut être adapté suivant les traditions de chaque région, de chaque pays. Et donc, quels sont les choix opérés par le Concile Vatican II? Quels sont ces choix que le Concile va opérer? Eh bien, à l'origine de la décision visant à réformer la liturgie des funérailles, il se trouve la conscience que le rituel hérité du Concile de Trente n'exprimait pas de façon adéquate la richesse contenue dans la vision chrétienne de la mort et que les mutations culturelles s'imposaient pour revoir entièrement le pastoral des seuls. Et donc, on exprime cette idée-là, justement, de lui donner un caractère pascal. D'où la publication des rituels, à nouveau, je vous l'ai mis en langue latine, en 69, et puis, quelques années après, l'adaptation en langue française, en 72. Et donc, là, il y a une petite erreur qui s'est passée dans un copier-coller qui n'a pas marché. Ce n'est pas le rituel sacrement pour les malades, mais le rituel des obsèques. Le rituel des obsèques. Donc, effacer avec un crayon, puis ce n'est pas le rituel sacrement des malades, hein. C'est le rituel des obsèques. Quelles sont les caractéristiques principales? Quelles sont les caractéristiques principales? Quand on compare globalement
terrain infectieux,
le rituel issu du Concile de Trente,
extraction de dents ici, et tiens-toi bien, bridge.
Si vous pouvez éteindre le micro. Voilà. Quand on compare les deux rituels, celui de Trente et celui issu du Concile Vatican II, on peut voir effectivement que dans le celui du Concile Vatican II, là, il y a une prise en compte fondamentale de la dimension pascale, comme je le dis, mais aussi de la dimension ecclésiale des funérailles. Cela ressort en particulier de la richesse thématique des nombreux textes, des oraisons, des prières qui sont contenues dans le rituel. Et nous y retrouvons des aspects très importants des prières traditionnelles dans lesquelles prédomine le langage biblique, les perspectives bibliques. Et donc, on va effectivement marquer davantage l'importance de l'écriture. Je vous lis, on le lira tout à l'heure peut-être, je ne vais pas le lire maintenant, on va le lire à partir des prenotandas d'un rituel dont je vous parlerai tout à l'heure. Et donc, l'importance de la dimension biblique fait que tout le lectionnaire des lectures qui sont faites pour les funérailles va être renouvelé. Et ce lectionnaire, c'est le livre qui contient les lectures faites au moment des funérailles, est très riche et il est marqué par la manière dont la théologie du Concile Vatican II s'est développée. On met en évidence l'importance spécifique de la parole de Dieu dans la célébration de la mort chrétienne, La liturgie de la parole va jouer un rôle très important. Nous le verrons tout à l'heure. Et puis, on va aussi donner beaucoup d'importance à la psalmodie, au psaume, à l'importance du chant des psaumes, de la lecture des chants des psaumes, qui vont être redécouverts. Et puis, enfin, les prières vont être enrichies. Quand on passe à la célébration des obsèques en tant que telle, j'essaie de vous montrer un peu, vous avez peut-être assisté, mais je vous le montre à partir du rituel lui-même, j'essaie de vous montrer. Tout d'abord, montrant quelle est la structure et le déroulement de la célébration, quel est le langage rituel, la dimension pascale et la dimension ecclésiale. Tout d'abord, la structure et le déroulement. Divers moments de célébration sont envisagés dans le rituel. Moments qui apparaissent comme des étapes de la prière de l'Église qui entourent le défunt. Tout d'abord, il peut y avoir la prière avec les proches du défunt. Il y a aussi la veillée, on propose, hein, la veillée à la maison du défunt ou à la maison funéraire. Une veillée à la maison du défunt ou à la maison funéraire. Le moment de la fermeture du cercueil, c'est un autre moment rituel. Le départ de la maison ou de l'hôpital, là où se trouve ou déposé le corps du défunt. Le rassemblement des proches et de la communauté chrétienne pour une liturgie de la parole ou la célébration de l'Eucharistie. Vous voyez, on peut choisir entre la liturgie de la parole ou la liturgie de l'Eucharistie. Et le dernier adieu du défunt, généralement cela se passe à l'église, hein. Et puis la déposition dans la tombe ou la crémation. La déposition dans la tombe ou la crémation. Ces moments-là, tous les moments que je viens de vous dire, hein, vont être répartis en trois lieux de rassemblement. Trois lieux de rassemblement. D'où l'idée d'étape. Voyez, d'où l'idée d'étape. Ces trois sont des lieux symboliquement forts pour la communauté qui se rassemble au moment des funérailles. Le premier lieu, c'est la maison, ou bien le lieu où repose le défunt avant l'inhumation. L'autre lieu, c'est l'église, où les proches du défunt et la communauté chrétienne sont convoqués. Et le troisième lieu est le cimetière où s'accomplit la sépulture. Alors vous voyez, c'est assez intéressant parce que ces lieux marquent les étapes et quelque part permettent, je dirais, le deuil. C'est véritablement presque une démarche de mise en œuvre par étapes d'une acceptation du deuil, du manque, dirait les psychanalystes, qui se fait dans les lieux différents, qui sont les lieux de vie du défunt. Le lieu où il meurt, la maison, l'église qu'il a pu fréquenter un jour, peut-être tous les jours ou tous les dimanches, et le cimetière, son dernier lieu de repos. C'est toujours, symboliquement, sont des lieux forts. Eh bien, ces divers lieux, voilà, permettent d'accompagner les proches du défunt tout au long du deuil à faire. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que la parole de Dieu est convoquée à chaque étape de la prière de l'Église, les défunts. Elle est prévue, la parole de Dieu, par des prières brèves, lors de la veillée, par exemple, pour le défunt, lors de la déposition du corps à l'Église. On a une grande liturgie de la parole au moment, justement, où il y a le rassemblement à l'Église, mais ou bien encore dans le lieu d'incinération. On peut faire le choix de faire là, la liturgie de la parole. Et donc, que ce soit la proclamation de la parole, ou l'homélie faite par le prêtre, ou le commentaire des textes, ou la prière des fidèles, tout cela dit une sorte de tressage de la parole dans tous ces moments. L'autre aspect, c'est le langage rituel, qui est aussi parlant, qui est parlant sans parler, je dirais, qui n'a pas de mots, n'est pas fait de mots, mais il est fait de rites, et qui est extrêmement important. Je soulignerai une chose qui peut paraître banale ou évidente, c'est que le corps du défunt, dans ce passage qui le conduit vers Dieu, est au centre de la célébration des funérailles. Le corps du défunt est au centre de la célébration des funérailles. C'est bien autour de ce corps-là que se rassemblent les proches et la communauté des chrétiens. Les proches et la communauté des chrétiens. Et donc ce rassemblement, nous l'avons vu, se fait à partir de lieux qui, pour ainsi dire, retracent le parcours de la vie du défunt. Le domicile, l'église, le cimetière. Ainsi, de lieu en lieu, jalonnés, reliés entre eux par des processions ou des déplacements. On ne fait plus de processions. Je ne sais pas si vous avez jamais participé à des obsèques dans un village, pas dans une ville, hein, mais dans un village. C'est, moi, j'ai pu participer à un funérail de ma marraine de baptême. Dans un village perdu de la Vénétie, la région d'origine de mes parents. C'est impressionnant parce que vraiment, on passait au milieu du village et tous les gens étaient à l'extérieur à voir passer le cercueil. On peut trouver encore ces formes de célébration qui sont très importantes, le déplacement par procession. Mais disons, le déplacement de lieu en lieu montre bien que le corps est porté et accompagné vers sa demeure finale. Et donc, face au mystère de la mort, c'est bien seulement le langage rituel qui peut permettre d'entrer dans cette compréhension. Ça vous est arrivé, hein, je pense, chacun de vous a une expérience de deuil, ou a participé à quelqu'un qui vivait un deuil. On dit toujours, on n'a pas de parole face à la mort, on n'a pas de parole. Hein. Et bien là, le langage rituel permet des signes très forts. Hein. En effet, tous les signes et les gestes accomplis auprès du cercueil ont pour but de manifester les honneurs rendus au défunt à travers sa dépouille. Et donc, la disposition des lieux et des objets liturgiques extrêmement fondamentale, décisive en ces cas-là. Par exemple, je ne fais que vous faire remarquer, le rituel demande qu'on mette au pied, à côté du cercueil, le cierge pascal, comme si le Christ lui-même ressuscité était présent au défunt pour l'accueillir. On propose de décorer le cercueil par des fleurs, par des objets parfois qui ont appartenu au défunt. Je vous fais aussi remarquer deux gestes qui parfois nous faisons un peu comme une routine, mais qui sont chargés de signification. L'aspersion avec l'eau bénite du cercueil, voyez, ou l'encensement. Les deux sont extrêmement importants. L'un, parce que ce n'est pas une question d'asperger pour asperger. L'aspersion d'eau bénite renvoie naturellement au baptême. Et donc, on rappelle que ce corps-là, maintenant gisant, a été un jour baptisé, tout petit peut-être, et qu'il arrive à la fin de sa course mortelle, terrestre, et qu'il ouvre, qu'une autre course est inaugurée, celle du ciel. Eh bien, l'eau bénite dit cette continuité entre la vie terrestre et la vie du ciel. Et puis l'autre geste, c'est l'encensement. Vous savez qu'on encense le cercueil du défunt. Là, à nouveau, je vous rappelle, c'est un geste tout à fait d'honneur rendu au corps. On encense les gens de marque, n'est-ce pas? L'encens est là pour dire la perception d'une présence qui va au-delà de la présence physique. Le parfum évoque une présence. Et puis le chant, la musique, tout concourt à exprimer l'importance, l'honneur dû au corps du défunt. Je termine par souligner, vous l'avez désormais repéré, je pense que je ne peux pas ajouter davantage, mais la dimension pascale est centrale là. Il n'est plus question de penser de manière angoissée au jugement dernier auquel se trouve l'âme du défunt, mais vous voyez bien que le rituel ne parle pas aucunement de cela. Il parle plutôt de cette marche du défunt à la suite du Christ ressuscité. Parce que si le défunt meurt, si chacun de nous va mourir un jour, il le fait à la lumière de la mort même du Christ et donc de sa résurrection. C'est un peu le mystère que nous allons célébrer cette semaine avec les fêtes de Pâques. Et puis la dimension ecclésiale, nous l'avons déjà vu pour les autres sacrements. Vous vous rappelez, je disais, c'est important que pour un baptême des enfants, il y ait la communauté ecclésiale, que pour un mariage, il y a la communauté ecclésiale. Ne parlons pas des catéchumènes, adultes, c'est important la présence de la communauté. À plus forte raison pour des funérailles. C'est d'où l'importance de confier à des laïcs cette célébration, dans la mesure où ils sont quelque part témoins, même pour dire acteurs de cette ministérialité réservée aux laïcs ou à tout baptisé, tout simplement. Est-ce que, avant de faire une petite pause, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Et puis on regardera ensemble un texte après la pause.
J'aurais une question concernant l'inhumation en l'absence du corps. Quand oui. Il y a des disparitions ou des morts accidentelles où le corps ne peut pas être retrouvé, oui. Que fait l'Église?
Mais l'Église, généralement, non. Le rituel prend en compte aussi ces situations un peu exceptionnelles, je dirais. Eh bien, il y aura sûrement un moment une célébration, je dirais, une liturgie de la parole dans laquelle on célèbre cette disparition, au sens, on fait mémoire de cette disparition, on la célèbre autour d'une liturgie de la parole. Donc, il n'y a pas d'acte d'inhumation, naturellement, c'est pas possible. Alors, mais cela est prévu.
Et une autre question, il fut un temps où la crémation n'était pas acceptée par l'Église. Qu'est-ce qui a fait que l'Église a changé d'avis?
Mais je pense à nouveau, merci pour la question Yves, parce que ça dit bien que, comment dire, en ces cas-là, l'Église catholique, je dis bien l'Église catholique, a su prendre en compte l'évolution de la culture. C'est-à-dire que à se prendre en compte tout en la canalisant. Je vais vous dire pourquoi. À prendre compte parce qu'effectivement, ça rentrait dans les habitudes désormais de la société civile, je sais pas, comme de la culture ambiante. Voilà, on peut dire tout simplement ça. Et donc, cela est permis à certaines conditions. Les conditions, ce que naturellement, on n'a pas d'abord, on ne célébrera jamais des funérailles en face d'une urne de cendres. Il faut d'abord, on célèbre toujours les funérailles devant le cercueil, donc devant le corps du défunt, et après on incinère, et le rituel prévoit qu'on puisse encore faire une ritualité au moment de l'incinération. Un peu pour combler, disent-ils, ce qui accompagne les funérailles, ce moment assez lourd de sens et même parfois un peu angoissant de l'attente de l'incinération. Il paraît que c'est très violent, comme je n'ai jamais vécu cette expérience, mais le fait d'accompagner le cercueil, puis d'attendre l'incinération, de voir sortir la petite urne, c'est tellement bref. Vous voyez, il n'y a pas le temps pour pouvoir penser à ce corps qui devient à l'improviste cendre. Mais cela, l'Église aussi a prévu dans le rituel qu'on puisse accompagner aussi le temps de l'incinération. Et donc après, du coup, on va inhumer l'urne, l'urne cinéraire au cimetière.
Au jardin du souvenir. Au jardin du souvenir, oui.
Voilà, au jardin du souvenir, oui. Donc, vous voyez, il y a la prise en compte. J'ai eu un débat assez musclé, je veux dire, avec un orthodoxe dans un colloque. Un collègue orthodoxe me reprochait, parce que je parlais en tant que catholique, du fait que l'Église catholique faisait ça. Pour les orthodoxes, c'est impensable. Pour les orthodoxes, maintiennent strictement l'idée que ce corps doit ressusciter et on ne peut pas l'incinérer. Il doit se disperser dans la terre de sa bonne volonté, je ne sais pas comment dire de ça.
Naturellement.
Mais vous voyez bien que Yves, là, c'est une question vraiment pastorale. C'est comme pour d'autres questions de sacrement. Hein. Nous avons parlé plusieurs fois pendant ce cours hein, de cas un peu de frontières. Si aujourd'hui on disait aux personnes qui désirent être incinérées, non, non, nous ne pouvons pas, l'Église n'accepte pas, les gens ne passeraient jamais par l'Église, vous voyez. Là aussi, c'est une possibilité qui est donnée de prendre en compte une pratique déjà existante pour pouvoir la, entre guillemets, christianiser et lui donner un sens chrétien.
Et puis peut-être aussi une question pratique, parce qu'il y a de moins en moins de place dans les, oui, dans les cimetières.
Ça, justement, c'est l'évolution culturelle. C'est l'évolution culturelle pour laquelle l'Église essaie de répondre, de réfléchir.
Et il peut y avoir des situations un petit peu particulières. La semaine dernière, j'ai été acolyte, puisque je fais partie de la pastorale des funérailles de Saint-Pierre, j'ai été acolyte pour une célébration avec urne. Et en fait, il se trouve que c'est une famille très croyante et la personne est morte du Covid il y a exactement un an.
Ah oui.
Et donc, nous avons eu une célébration avec l'urne. Donc, il n'y a pas eu le rite de la lumière, mais le cierge pascal était allumé. Il n'y a pas eu d'aspersion du corps, mais il y a eu tout le rite de la parole. Et il y a eu un rituel aussi de rendre, comme vous dites, d'honorer la personne ou le corps. Nous avons distribué des fleurs à chaque personne qu'ils ont déposées devant la photo de la personne. Donc, je pense qu'en fait, c'était très beau. Et les gens étaient très apaisés. C'était quand même un moment douloureux d'attendre cette célébration pendant un an. C'était... Oui. Donc, je pense que ça a bien rempli, entre guillemets, son office.
Voilà.
Les gens étaient très contents, voilà, très, très apaisés.
Merci, Anne, pour ce témoignage, parce que ça dit bien que, vous voyez, on a un rituel, mais il faut l'adapter. Et vous avez bien compris ce que dit Anne. Ouais. L'adaptation n'advient pas pour comprendre si on fait bien les règles ou pas les règles, mais elles adviennent pour le bien des fidèles. Et là, c'était pour le bien de la famille, vous l'entendez bien.
On est vraiment au cœur de l'humanité. Voilà. Il y a la spiritualité, il y a le sacrement, il y a toute la sacralité, mais c'est très, très connecté à l'humanité souffrante et à l'attente de gens qui ont besoin, en fait, qu'on prie avec eux et qu'on fasse mémoire de la personne, surtout.
Tout à fait. Donc, il faut savoir vraiment être au plus près des personnes. Ouais. Ça pourrait être même une clé qui résume notre cours. Hein. Les sacrements devraient être, chaque sacrement devrait être au plus près des personnes. Parce que
Je crois que l'Église aussi accepte d'offrir un lieu, c'est peut-être pas forcément dans l'Église, ça peut être une salle paroissiale, pour des gens qui sont peut-être éloignés de l'Église ou à moitié baptisés, enfin, c'est-à-dire qu'il peut y avoir dans le couple un seul qui est baptisé, ou pour un enfant qui n'est pas baptisé, un lieu de recueillement où même nous, les acolytes, nous pouvons accompagner à prier s'ils le demandent.
Oui.
Je ne l'ai jamais fait, mais je sais que ça peut se faire.
Oui,
oui. Donc, il y a une grande ouverture d'accueil à la souffrance et aussi à la prière avec eux, même si il n'y a pas forcément le baptême de la personne dont il est question. Je trouve ça formidable.
Oui, oui, c'est important. Mais vous voyez bien que pourquoi je dis que le rituel des funérailles est intéressant pour comprendre le sacrement. Parce que d'une part, on nous dit qu'il y a une équipe qui le vit. Donc, vous voyez, la ministérialité se fait par une équipe, par des laïcs baptisés. Et puis, le fait qu'on peut adapter suivant les situations. Je pense que l'avenir, entre guillemets, des sacrements, c'est un peu ça. Même, il me semble que le Concile Vatican II apprenait ça. Hein. Puis, vous savez, les tensions parfois sont grandes en catholicisme ou entre catholiques, c'est difficile de le vivre. Mais je pense que c'est ça l'avenir des sacrements.
C'est une pastorale absolument incroyable. Mm. C'est extrêmement émouvant. Il se passe des choses qu'on n'imagine pas, en fait.
Oui.
Voilà.
On peut dire, oui,
par les gestes, par les... Voilà.
Vous entendez bien, là aussi, ça permet de relire aussi le cours hein, tout entier. Ah, généralement, ce sont les sacrements dits de rite de passage qui sont importants en ces cas-là.
Ouais.
Le baptême des petits enfants, les mariages, les funérailles. Voyez, ce sont des rites de passage de la vie qui assez souvent sont décisifs pour réenclencher ou redécouvrir la foi ou l'exprimer, l'annoncer. Est-ce qu'on fait une pause de 4 minutes? On se retrouve à 40.
D'accord.
Voilà. Je voulais juste vous montrer le. Vous devez l'avoir peut-être sous les yeux, vous l'avez le rituel. Je vais essayer de partager. Voilà. Vous avez ici les numéros de doctrinal et pastoral d'un rituel qui n'est pas, peut-être qui deviendra dans l'avenir le rituel revu des funérailles, mais qui est tout à fait, a été pensé en but laïque qui sont chargés de ce ministère-là. Et donc, je vous ai mis, pour que vous puissiez le lire, prolonger peut-être le cours, parce qu'il est dense de perception de cela. Vous voyez ces notes doctrinales. Donc, le texte dit numéro 1. Dans ces notes, on trouvera des remarques utile pour mettre en œuvre les célébrations pour les funérailles proposées dans cet ouvrage. C'est une question concernant la liturgie, en particulier en vue d'obtenir une participation active, intérieure et extérieure des fidèles, ainsi que l'accueil des familles en deuil. Je dis bien que c'est un rituel, c'est peut-être aussi une nouveauté assez importante, destinée aux laïcs, hein, qui sont censés accompagner, présider ou officier au funérail. Puis donc, voilà, l'attitude chrétienne au moment du deuil, voilà, il y a cette idée de rapprocher l'expérience de la mort à l'expérience que le Christ lui-même a fait au numéro 3. Et puis, regardez au numéro 4, pour les proches du défunt, l'événement de la mort représente une séparation à accueillir dans une profonde espérance, un moment d'intense humanité où tout semble à la fois se défaire et trouver son accomplissement, le début d'un temps de deuil plus ou moins long où des sentiments contrastés vont se succéder. À ses proches et à la communauté qui les entoure, la Pâque du Christ, nouvel exode, se présente de manière singulière. Et puis, donc, voilà, il y a l'idée de l'intercession, numéro 7, les chrétiens intercèdent pour les fidèles défunts, déjà morts et ressuscités. Et puis vous avez la dimension sociale, ecclésiale du deuil, nous en avons touché un mot assez rapide, mais là, vous pourrez le prolonger. Et puis là, vous voyez les étapes dont j'ai évoquées tout à l'heure dans le cours, elles sont résumées bien dans ce texte. Et puis il y a une partie sur la participation de la communauté et les ministères. Vous voyez numéro 15, c'est ça que je voulais vous souligner. Anne vient de donner son témoignage elle-même. Des laïcs peuvent diriger la prière au domicile du défunt ou au centre funéraire et au lieu de sépulture. En certains lieux, l'évêque diocésain ou son délégué leur donne une mission pour accomplir ses fonctions et des équipes se constituer pour accompagner au nom de l'Église les familles en deuil. Voilà. Voilà. Et puis les différentes. La célébration dans l'Église et la disposition des lieux des choses. Voilà ce que je voulais vous donner. Est-ce qu'on peut dialoguer librement sur ce thème que nous venons d'évoquer aujourd'hui ou sur d'autres aspects du cours? N'hésitez pas.
Depuis combien de temps l'Église a évolué et est plus ouverte sur le suicide, sur l'accueil des personnes qui se sont suicidées?
Vous savez, là aussi, c'est assez intéressant de constater que je sache, mais peut-être que je me trompe, donc je ne saurais pas le dire avec, de manière affirmative, mais je pense que pas qu'il y a eu un document qui dit l'Église a changé, un peu comme, on l'a évoqué, un peu comme la question du limbe. Vous savez que pour les limbes, qui constituait un des dogmes presque fondamentaux de l'Église catholique, il y a 2 ans, je crois, il y a 3 ans, la congrégation pour la foi, donc même c'est pas rien, a dit que c'était fini, que ça n'existe plus. Donc du coup, on se réveille le lendemain, on se dit tiens, jusqu'à maintenant on y croyait, maintenant on n'y croit pas.
Alors, tous ceux qui étaient partis dans les limbes, où est-ce qu'ils sont partis alors?
Ils sont réintégrés direct au paradis.
La miséricorde de Dieu est plus grande que les limbes. Absolument les limbes, la miséricorde. La question de miséricorde, c'est tout à fait logique. Mais alors, ça c'est un exemple pour dire que je sache, il n'y a pas eu de document disant voilà, on accepte. Mais en vérité, la pratique fait que désormais, l'Église prend en compte qui ont vécu le suicide. Ouais. Mais ça se fait dans la pratique. Il n'y a pas une... Ouais. C'est à saluer, ça. Ça veut dire que ça nous fait aussi bien espérer, malgré toutes les travers que je vous ai montrés dans ce cours.
Justement, le mariage.
Je voulais vous le montrer pour vous faire prendre conscience que les choses évoluent, vous voyez, que l'Église a une sorte, que l'Église, je ne sais pas qui parlait, c'était Evelyne qui le disait, l'Esprit Saint est toujours là, et donc du coup, il veille sur son Église, et un jour ou l'autre, si l'Église n'arrive pas à s'en sortir elle seule, l'Esprit provoque quelque chose, et je pense qu'effectivement, certaines choses évoluent sans que nous le voulions ou que l'Église officielle le veuille, le pense.
Par rapport au suicide, moi, je trouve que l'Église devrait être au contraire infiniment plus présente, 1000 fois plus présente. Le suicide, c'est terrible, c'est une perte d'espérance effroyable, quoi.
Oui, mais c'est le cas aujourd'hui.
Ben, tant mieux, mais par rapport à son attitude de l'époque.
Passé.
Si je peux me permettre, je vous partage une expérience pour laquelle je vous demande de prier. Justement, ça vous dit que cela est vécu par tout le monde. Hein. Hier soir, le père supérieur, donc un frère de la communauté qui est sous-prieur, ici c'est le 3e de la communauté, nous a annoncé que son papa s'était suicidé.
Oui. Oh, yeah,
yeah. Ah là là.
Son papa s'était suicidé. Donc, papa de moine, hein, son papa est un croyant. Donc, il n'avait pas supporté le deuil de sa femme il y a quelques années. Et s'est suicidé quelques jours au moment où la femme était morte. Et donc... ça m'a impressionné là. Et donc c'est lui, c'est très... pourquoi je vous raconte ça, c'est pas pour faire pour meubler, hein, mais pour vous partager avec vous, pour vous dire que ça peut arriver à tout le monde. Hein. Et que la présence, le frère est parti pour accompagner la famille, pour être présent. Il n'y aura pas de cérémonie chrétienne. Hein.
Ah bon?
Mais non, parce qu'il était...
Et pourquoi?
Et donc, du coup, mais...
Ah, parce qu'il était incroyant.
Oui, oui, oui.
Ah, oui.
Et donc, la présence du frère, de son fils, croyant, lui, dit quelque chose, que l'on veuille ou non, vous voyez, va interroger. Et voilà, il s'appelait Christian. Mais je pense que, voilà, pour revenir à la question de fond, les sacrements sont vraiment, j'espère que vous partiez de ce cours en ayant la conscience que les sacrements traversent nos vies. Quand je dis nos vies, je dis vraiment nos vies individuelles, mais aussi nos vies de ceux qui nous entourent, de ce que nous côtoyons, vous voyez. Et donc, notre témoignage, là où que nous soyons, que nous fassions, il y a qui accompagne qui officie les funérailles, qui accompagne des catéchumènes, chacun de vous fait des choses. Même si vous ne le faites pas, le fait de vivre en chrétien devient un signe important et contribue à la vie sacramentelle de l'Église.
Moi, je suis obligée de partir, donc en fait, justement, parce que je vais m'occuper des petits catéchumènes. Mais je ne sais pas si je vous reverrai, hein, mais je vous remercie parce que pour moi, beaucoup de ces sacrements avaient une dimension un tout petit peu culinaire, on va dire. Et ça m'a éclairé beaucoup. Bien que c'est vrai, pour reprendre l'idée que précédemment dite, c'est un émerveillement ces petits enfants, ces grands enfants qu'on prépare au baptême. Pour moi, ça a été une révélation dans ma foi.
Oui. Merci Evelyne.
À très bientôt, j'espère.
Merci, Evelyne.
Et joyeuse Pâques.
À vous. Oui, peut-être que. Voilà, je voulais juste vous dire, vous remercier à mon tour pour votre présence à ce cours, votre sympathie, votre attention, vos questions m'ont aidé, vos remarques ont permis de comprendre mieux le cours. Et puis, je demanderai à Hélène de vous envoyer un petit document que j'ai concocté moi-même. Evelyne parlait de culinaire, donc j'ai concocté un document. dans lequel j'ai mis des liens vidéo d'émissions faites par des grands théologiens sur les différents sacrements.
Ah ouais.
Et ça pourra, d'une autre manière, prolonger l'un ou l'autre aspect. Hein. Donc, c'est moi qui ai trié, là, qui a fait le choix. Hein. Donc, et vous l'aurez, vous pourrez, au fur et à mesure, quand vous voulez, quand vous avez du temps, prolonger l'un ou l'autre aspect que vous voulez prolonger. Et puis,
merci. Là,
vous souhaitez une joyeuse Pâques, un beau triduum, comme on dit. Et puis, je penserai à chacun de vous, à chacune de vous. Voilà.
Merci.
À vous. Bonne fête à tous.
Bonne fête à tous.
Bonne semaine sainte.
Merci.
Merci.
Au revoir.